Gloire à Dieu, nous allons lire la parole dans Jérémie 7, dans Jérémie 7, du premier verset au 15e verset. Jérémie 7, 1 à 15.
La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dis: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi ? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites: nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai, loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm.
Voilà, nous voyons le Seigneur donner cette instruction à Jérémie: va, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est quoi? C'est le temple. C'était le temple de Salomon. On dit à Jérémie de se placer devant le temple pour faire toutes ces récriminations aux enfants d'Israël. On se dit, mais c'est étonnant que de telles paroles qui devraient être adressées à des incroyants soient adressées à des gens qui vont prier Dieu. Dieu n'envoie pas Jérémie comme il avait envoyé Jonas auprès des Ninivites, des païens, des incrédules, mais il l'envoie auprès de ceux qui vont régulièrement au temple. Il dit, mets-toi devant. C'est comme si on disait à quelqu'un, mets-toi devant cette église-là. Et les gens qui vont entrer, tu leur parles. En quelque sorte, Dieu dit à ses enfants d'Israël, il leur dit, ce n'est pas moi que vous servez. Vous pensez me servir en entrant dans ma maison, mais ce n'est pas moi que vous servez. Et en lisant verset 3, il est écrit: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Vous savez, nous étions dans un temps où il y avait une menace du roi Nebuchadnezzar sur Judas. Il y avait cette menace d'être déporté. Et Dieu dit, si vous vous comportez bien, je vous laisserai dans ce lieu. Mais sinon, voilà, je détruirai ce temple, je détruirai tout. Et là, il dit à Jérémie, dis-leur, tout ce qu'ils font est faux. C'est des hypocrites. Et en réalité, ils ont placé la maison, le temple, au-dessus de moi. C'est ça notre thème. Dieu ou le temple. Beaucoup viennent dans des endroits qu'on appelle l'église, mais en réalité, ce n'est plus Dieu qu'ils cherchent, mais ils cherchent le temple. C'est l'activité qui est devenue leur moteur. Ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. C'est ça notre grand souci d'aujourd'hui, notre grand problème contemporain, c'est que beaucoup d'endroits dits églises sont remplis de gens qui viennent pour l'activité et qui ne cherchent plus Dieu. Nous allons parler de ça et prier en même temps que nos voix soient réformées. Quand tu viens prier, tu viens pourquoi ? Tu viens pour Dieu ou tu viens pour l'activité elle-même ? Où on t'a élevé pasteur, on t'a élevé prédicateur, on t'a élevé diacre. Non. Ce qui est important, c'est de venir pour Dieu. Et le Seigneur est triste parce que ce qui devait être un endroit pour glorifier son nom est devenu une sorte de divinité. Les églises sont devenues les objectifs. Or, l'objectif de l'église, c'est Dieu. C'est de nous amener à Dieu. Mais les églises, aujourd'hui, sont devenues en elles-mêmes des objectifs. Vous voyez des gens servir, ils servent leur église. Ils ne servent pas Dieu dans l'église, mais ils servent leur église. Ils servent leur pasteur au lieu de servir Dieu en servant le pasteur. Dieu n'est plus le centre. Il n'est que la justification. La réalité, quand vous regardez bien, c'est que la plupart servent leur passion. Certains servent la musique, d'autres servent le côté oratoire, prêcher, parler devant les gens. Et c'est ça l'état des choses aujourd'hui. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est qu'il y a toute une série de péchés. Toute une série de péchés qui sont cités là. Ça montre que il n'y a pas la substance divine. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3:9, celui qui est de Dieu ne pêche pas, il ne pratique pas le péché, il a la semence de Dieu en lui. Quand on réalise que dans une maison qu'on appelle la maison de l'Éternel, les gens qui y vont sont dans tous les péchés qu'on vient de citer là, on se dit, ben, il y a un problème. Il n'y a pas la substance divine, puisque la substance divine est plus forte que le péché. C'est ce qu'on peut voir dans le verset 9. Quoi ? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à des faux dieux, à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Après, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Bien-aimé, aujourd'hui dans les milieux évangéliques, dans les milieux chrétiens, il y a la tolérance de toutes sortes d'iniquités, de toutes sortes de péchés. Le concubinage, la recherche du succès, la recherche de gloire, la recherche de l'argent. Tout ça, c'est accepté. Les professions nouvelles, artistes, musiciens, chrétiens, artistes, chrétiens, les professions nouvelles qui n'ont jamais existé dans le milieu chrétien, c'est devenu aujourd'hui des professions, des gens qui sont indépendants, qui n'ont pas d'autorité et qui font la musique à gauche, à droite, qui sortent des albums. Tout ça, c'est toléré. La musique du monde, certains dans leur maison, quand ils font des fêtes de mariage, des fêtes d'anniversaire, ils mettent la musique du monde. Après le dimanche, ils viennent prier. Dieu dit, mais après tout ce que vous faites là, vous venez dans cette maison. C'est pourquoi il envoie le prophète Jérémie. Un prophète est là pour redresser le peuple, pour amener le peuple à la vérité. Dis-leur, ils sont dans l'hypocrisie. Ils sont en train de se tromper eux-mêmes parce que moi je vois toute une liste de péchés. Aujourd'hui, ce n'est pas mon but de citer tout ce qui se passe, mais je le cite quand même rapidement pour que ça aide dans ce que nous voulons vraiment partager en profondeur. Car ce que nous voulons vraiment partager en profondeur, c'est le remplacement de Dieu par l'activité, par le temple, par les objectifs humains. Voilà. C'est ça qui est profond. C'est ça la source de tout. Parce qu'on peut se poser la question, mais d'où ça vient que dans les gens même de Dieu, il y ait tout ça? C'est parce que progressivement, il commençait à venir dans la maison de l'Éternel, pour la maison de l'Éternel, pour les activités en elles-mêmes, et il ne venait plus pour Dieu. C'est un glissement progressif. Ce n'est pas nouveau et c'est la chose qui se passe aujourd'hui. Vous savez, dans beaucoup, surtout des milieux africains, il y a toutes sortes de scandales, surtout en Afrique, de pasteurs dénudés sur YouTube, sur Internet. Et puis, le dimanche qui va suivre, l'église est toujours, la salle est toujours remplie. Les gens, quand on leur parle, ils disent, mais c'est un homme, il peut pécher. Voilà. Les gens, quand on leur parle, disent, ah oui, mais ce que nous suivons, c'est l'onction de Dieu en lui. Mais bien aimé, Dieu ne peut pas se contredire. Donner l'onction à quelqu'un qui vit dans le péché, notoirement. Mais ils vous diront, mais ça marche. Les gens sont touchés. Voilà, une des réponses qu'on entend aujourd'hui, c'est ça. C'est que ça marche. Les gens sont touchés. Les gens sont guéris. Au fait, les gens ne viennent plus dans le temple de Dieu pour chercher Dieu. Ils viennent chercher ce qui marche. Si ça marche, si la salle se remplit toujours, s'il y a toujours de la bonne musique, s'il y a toujours ce qu'eux, ils appellent gloire, ils sentent une présence. Ah, il y a la présence de Dieu. Ce n'est pas la présence de Dieu parce que nous, on sentait les mêmes choses quand on suivait les Bob Marley. Hein. Et les gens qui suivaient Michael Jackson, ils tombaient même en syncope. Oh, il y a la présence de Dieu. Ce n'est pas la présence de Dieu, c'est le nombre, c'est la chaleur. C'est comme dans des matchs de football au stade, il y a comme une force, il y a une présence. Donc, c'est le nombre qui fait ça. C'est l'attirance pour quelque chose, pour une activité qui fait aussi ça. Mais Dieu ne demeure pas dans la fausseté. Là où les dirigeants sont faux, ils ne sont pas, il n'est pas là. Mais on croit qu'il y a une présence parce qu'il y a une ambiance faite aussi dans ce but-là. Et il y a aussi la présence démoniaque qui fait du bien aussi à la chair. Mais Dieu est vérité. C'est pourquoi il envoie Jérémie dire, mais ces gens-là ont choisi le temple, pas moi-même. D'ailleurs, je détruirai ce temple. Ce n'est pas écrit clairement ici, mais c'est dit d'une manière indirecte. Et c'est ce qui s'est passé. Après ces épisodes-là liés au prophète Jérémie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été déportés et le temple a été détruit. Parce que le temple avait pris la place de Dieu. Et bien aimé, Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui encore, les mouvements, les dénominations, les bâtiments, les activités ont pris la place de Dieu. Dieu va mettre des conditions telles que ceux qui dépendaient des salles, des activités, tout ça, vont se retrouver en difficulté. On l'a vu, un avant-goût là. On est dans cet avant-goût, même si ça s'est tassé un tout petit peu, mais on a vécu ça en 2020, où les temples étaient fermés, les activités étaient fermées, et là, déjà, c'était l'avant-goût de ce qui peut se faire plus tard. Parce que Dieu voit que les activités, le temple, prennent le dessus sur la recherche de sa face. Ce qui est important, c'est de rechercher la face de Dieu. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu viens chercher? Tu viens chercher Dieu ou tu viens travailler? Même si tu viens prêcher, tu dois venir chercher Dieu en même temps. Même si tu viens chanter, tu dois venir chercher Dieu en même temps. C'est Dieu qui doit être l'objectif. C'est la relation avec lui qui doit être l'objectif. Ce n'est pas l'objectif final. Même si on a d'autres objectifs secondaires, l'objectif principal, ça doit être la rencontre avec Dieu. C'est vrai que tu peux venir pour filmer, mais ton objectif principal doit être rencontrer Dieu. Les autres objectifs sont secondaires. Et là, c'est que Dieu stigmatise, c'est le fait que les objectifs secondaires ont pris le dessus sur l'objectif principal. Ils l'ont même éliminé. Il dit, mais vous vous dites, c'est ici le temple de l'Éternel. Nous avons un beau temple. Nous avons un grand temple pour l'Éternel. Il dit, oh, mais à quoi ça sert si vous êtes dans tant de péchés? Il dit, si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Donc voilà la liste de mauvais comportements qui est encore donnée. Répandre le sang innocent, aller après d'autres dieux, maltraiter l'étranger, l'orphelin, la veuve, tout ça. Ça se retrouve dans les milieux chrétiens à notre époque sous d'autres formes. On voit des gens qui ne s'intéressent pas aux autres frères et sœurs. Est-ce qu'ils sont bien ou pas? Des gens venir comme dans un centre commercial. Ils viennent au culte comme dans un centre commercial. Ils font leurs courses et ils s'en vont. Non. L'objectif, c'est demeurer avec Dieu. Or, Dieu, dans sa parole, dans Psaume 133, il dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Donc, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Conséquence, si je viens au culte, si je veux rencontrer Dieu, j'ai intérêt à être uni avec les autres. Dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Sinon, Dieu n'est pas là. Il ne va rien faire. Il a dit, c'est là que j'envoie la bénédiction. Il dit aussi encore dans Matthieu 18, 19, si deux ou trois sont réunis, unis en mon nom, tout ce qu'ils vont demander, je vais donner, unis en son nom. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui ne s'intéresse pas aux autres, il s'intéresse à la star qui va prêcher, qui va officier. Il est venu pour voir une star, il est venu pour voir des musiciens chanter. Et Dieu dit, mais finalement les activités ont pris le dessus sur moi. Les stars de la prédication, les stars du chant ont pris le dessus sur moi. Ce temple ne sert plus à rien. Bien-aimés, c'est pourquoi le Seigneur viendra mettre fin à tout ça. Vous savez, quand le Seigneur fait un acte, il en fait plusieurs en réalité en même temps. Quand il y aura l'enlèvement, il y a plusieurs objectifs. L'objectif aussi, c'est de montrer que un groupe venait pour moi, un autre groupe ne venait pas pour moi. C'est ce à quoi sert aussi l'enlèvement. Je vous ai déjà raconté ce que ce dont a parlé notre ami Richard Rembrandt. Il dit une fois, au moment où l'Union soviétique avait envahi la Roumanie, les chrétiens en train de, ils allaient commencer le culte, ils avaient déjà commencé le culte, et ils voient apparaître des soldats qui entrent, qui leur disent vous arrêtez tout, vous arrêtez toutes ces fantaisies là, toutes ces aventures, vous arrêtez ça. Vous venez de chanter, vous dites que vous êtes prêt à donner votre vie pour votre Dieu. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va vous faciliter la tâche. On va vous tuer et vous propulser vers lui rapidement. Donc, on va vous raccourcir le chemin. Qui sont ceux qui sont prêts à donner leur vie pour Dieu, qui maintiennent cette vérité-là. Mais qui, j'ai oublié là où il les a mis. Mettons-les à droite. Et ceux qui se rétractent, pour une raison ou une autre, ils se mettent à gauche. Bien-aimés, il y a eu une infime minorité qui s'est mise à droite et la grande majorité s'est mise à gauche. Elle s'est rétractée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ces militaires? Ils ont dit à la majorité qui s'était rétractée, allez-vous-en. Votre vie est sauve. Allez-vous-en, sortez de ce lieu. Nous, on va s'occuper de cette minorité qui insiste sur Dieu. Et quand la grande majorité apostate est partie, eh bien, les soldats ont baissé leurs armes. Ils ont dit aux chrétiens qui étaient restés, deux ou trois ou quatre, ils leur ont dit, nous aussi on est des chrétiens. Mais on ne voulait pas que les faux chrétiens soient là parce qu'ils allaient nous dénoncer. C'est pourquoi on a fait cette scène-là, pour qu'ils s'en aillent, qu'on reste entre nous, qu'on prie le Seigneur. Amen. C'est sans l'enlèvement. Donc l'enlèvement, c'est quoi? C'est Jésus qui revient, qui attire à lui ceux qui viennent pour lui. De sorte que, malheureusement, j'ai le document dans ma veste là. C'est un document qui, on va le distribuer. C'est l'un, voilà, c'est ça. L'un sera pris, l'autre laissé. C'est une vision qu'un bien-aimé avait eue dans les années, je crois, 50. Ou bien dans les années 20, mais ça a été réédité dans les années 50 et puis dans les années 75. Et c'est une vision très forte. L'un sera pris, l'autre laissé. C'est une vision de l'enlèvement. Donc quand l'enlèvement se fait, Jésus prend ceux qui, dans les églises, quand ils venaient pour Jésus. Vous savez, les gens qui viennent pour Dieu, pour Jésus, ils sont prêts à supporter le mauvais caractère d'un tel, prêt à supporter qu'on lui donne tout le boulot, parce qu'il vient pour Dieu. Il ne crée pas de problème. Il accepte de persévérer. Mais les gens qui viennent pour des objectifs personnels disent, moi j'aimerais bien une église qui insiste un peu sur la musique. J'aimerais bien une église qui... où il y a quand même tout le monde, hein, toutes les nationalités. J'aimerais bien. Ils ont des j'aimerais bien. Mais non, celui qui vient pour Jésus, il vient là où il sent que Jésus où il est. Jésus a dit, là où je suis, c'est là que sera mon serviteur. Celui qui cherche Jésus, là où Jésus est, c'est là où il est. Mais non, là où Jésus est, peut-être inconfortable. Hein. Il a lui-même dit que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où dormir. Il a dit ça à quelqu'un qui voulait le suivre. Il a dit, mais tu veux me suivre, mais moi je n'ai pas d'endroit où dormir. Donc tu dormiras à la belle étoile comme moi. Donc là où Jésus est peut-être inconfortable, il peut y avoir des gens imparfaits, mais Jésus est là pour les sauver. Mais toi, ce qui va t'intéresser, ce n'est pas les gens imparfaits. Ce n'est pas le manque de très bons chantres, mais ce qui va t'intéresser, c'est que Jésus soit là. Et des gens comme ça ne sont pas problématiques. Ils sont toujours souriants, ils sont bien, parce qu'au fait, ils cherchent Jésus. Et ce jour-là, le jour de l'enlèvement, Jésus récupérera ceux qui viennent pour lui. De sorte que, quand vous lisez ce document-là, parce qu'il est un peu long, j'aurais bien voulu le lire totalement, mais il est un peu long, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez avec des gens que vous pensiez être des chrétiens 100%, mais ils sont restés. Ils étaient réguliers dans l'activité, mais le cœur n'était pas pour Jésus. Ils venaient pour l'activité. Il y en a qui se sont engagés dans une activité, ils viennent maintenant pour honorer cette activité. Il y en a d'autres, c'est parce que les parents sont à l'église. Il y en a d'autres encore, parce que c'est quand même pas mal la morale. Mais non, on doit venir parce qu'on a une relation vraiment avec Dieu. Et on est attaché à lui. On vit pour lui à 100%. C'est ça le thème de notre partage. La liste de péchés, on la donne. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Le but d'aujourd'hui, c'est réformons nos voies. Nous venons pour Dieu, nous venons pour Jésus, nous venons pour la parole de Dieu, nous venons pour obéir au Saint-Esprit, ou bien nous venons à cause de l'activité, à cause des traditions, à cause d'une sorte de sympathie qu'on a pour les choses de Dieu. Non, il est temps de se fixer. Il est temps de choisir. Choisissez qui vous voulez servir, a dit Josué au peuple. Choisissez. Il est temps de s'engager à 100%. Il est temps d'arrêter de citer un tel, un tel, un tel. Non, tu dois venir pour ton Dieu et tu dois aller là où il est. Si tu penses qu'il n'est pas là, ne viens pas. Si tu penses qu'il n'est pas dans tel autre endroit, n'y va pas. Il ne faut pas y aller pour les activités. Il faut y aller parce que tu sais que le Seigneur est là. Et comment on sait que le Seigneur est là? Mais parce que on a vu sa parole être prêchée à 100%. Et deuxièmement, les gens qui nous entraînent sont selon le modèle de Jésus. Voilà. Si les gens qui vous entraînent ne sont pas selon le modèle de Jésus, vous suivez quand même parce que ça marche. Des gens qui vous parlent de l'argent matin et soir, vous les suivez quand même parce que la salle est remplie. Des gens qui maudissent les autres, vous les suivez quand même parce que même, il y en a même qui disent, ah lui quand il maudit ça marche. Hein. Au fait, c'est que on suit ceux qui marchent. Ce qui remplit le salle, ce qui est beau à entendre, ce qui est fort pour la chair, ben c'est ce qu'on suit. Mais le jour de l'enlèvement, c'est là que la différence se fera. Ça sert aussi à ça, l'enlèvement. Vous vous souvenez, Jésus avait donné la parabole de l'ivraie et du blé. Et il avait dit que c'est à la fin que les anges moissonneront. L'enlèvement est une sorte de moisson. Donc, beaucoup de choses ne sont pas connues de nous clairement. Et c'est le jour de l'enlèvement, on saura, un tel n'était pas à 100% parce qu'il est parmi nous. Pourtant, c'est lui le pasteur, mais il est parmi nous. Il n'est pas parti. Donc, il n'était pas à 100%. On le saura bien ce jour-là. C'est pourquoi, bien-aimé, mon exhortation, c'est qu'on réforme nos voies. Moi, le premier, on doit servir le Seigneur, pas servir un temple, servir une activité. Ça, c'est des objectifs secondaires. Je me suis engagé pour une activité. D'accord, je dois servir dans cette activité-là, mais c'est secondaire. Ce qui est primordial, c'est le Seigneur. Vivre pour lui et le servir lui seul. C'est ce que Jésus a donné comme réponse au diable quand il a tenté. Il a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Lui seul. Jésus a parfois prêché dans les synagogues ou devant le temple, mais c'était justement pour montrer que ce n'est que des instruments. La réalité, c'est lui-même qui était Dieu, c'est lui-même qui était le temple. Il a dit, détruisez ce temple, je l'ai reconstruit en 3 jours. Donc le temple, c'était qui? C'était lui-même. C'est ce que Jean explique. Il dit, il voulait parler du temple de son corps. Donc Jésus, c'était le temple quand il est là. Aujourd'hui, le temple, c'est où? C'est l'homme. Il est écrit dans les épîtres que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous. Venir dans une idée comme quoi Dieu serait confondu à un bâtiment, ce n'est pas bon, bien-aimé. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on change. Il faut qu'on ait une vraie relation avec lui. Quand tu vas au culte, c'est pour le rencontrer ensemble avec les autres. Mais déjà, tu le rencontres toi-même déjà chez toi. Mais quand on est ensemble, il y a d'autres bénédictions. Enfin, il y a des bénédictions d'un autre genre qu'on reçoit ensemble pour des objectifs qu'on a ensemble. Mais ton Dieu, tu dois l'avoir à tout moment puisque c'est toi le temple. Tu dois le rencontrer chez toi en marchant. Tu veux de lui, tu veux marcher avec lui. On doit désirer être avec lui tout le temps. Et d'ailleurs, vous savez qu'est-ce qui est dit le jour de l'enlèvement? Il est dit dans 1 Thessaloniciens 4, 13 que quand nous serons enlevés, quelle est la phrase qui suit? On sera tout le temps avec le Seigneur. C'est qu'on a du mal à vivre sur terre, le jour de l'enlèvement, ça sera accompli. On ne le quittera plus, on sera tout le temps avec lui. Il faut vous dire une chose, ce qu'on nous prophétise concernant la fin, c'est quelque chose qu'on doit vivre dès le présent, mais différemment. On nous prophétise le paradis à la fin, on doit vivre le paradis par la foi en Jésus, le repos en Christ, dès maintenant. On nous prophétise qu'on sera tout le temps avec le Seigneur après l'enlèvement. Dès maintenant, on doit être tout le temps avec le Seigneur. Comme David dit, j'habiterai toujours dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, la maison de l'Éternel, c'est toi. Mais beaucoup continuent avec l'ancien système. Ils ont fait de leur église leur Dieu. Non. Ils ont fait de leur maison leur Dieu. Non. Ils ont fait de leur activité leur Dieu. Non. La conséquence de ça, c'est que les péchés s'infiltrent. Des péchés à tel point que même parfois les païens sont dépassés par cela. Tout ce qu'on entend à gauche, à droite, qui arrive dans les milieux chrétiens, ça dépasse même les païens. Ça dépasse même les païens. Tout ça, c'est lié au glissement progressif. Les gens suivent ce qui marche. Dernièrement, nous avons envoyé une vidéo où un monsieur qui se dit pasteur, il fait couler de l'eau sur lui et les gens récoltent ça avec leurs mains pour boire, pour être bénis. Alors, vous allez dire, mais c'est des gens bêtes, ils ne réfléchissent pas. Non, il y a un glissement progressif. Le glissement progressif vient du fait que tu viens plus pour Dieu vraiment, mais tu viens pour l'activité. Et petit à petit, tu vas aller là où l'activité marche, fonctionne. Au départ, avec un bon semblant de ressemblance à la Bible, petit à petit, tu vas être moins exigeant. Parce que ce n'est pas Dieu que tu cherches, mais c'est l'activité. Et donc tu vas devenir moins exigeant sur la ressemblance à Dieu. Et on en arrive à ces aberrations-là où une personne projette de l'insecticide sur des gens pour qu'ils soient guéris de maladies. Vous dites, ah, mais ça c'est trop. Mais c'est trop, mais ça commence petit à petit par le fait que vous négligez Dieu. Et c'est là qu'on tombe dans toute la liste de péchés qui sont cités ici, et plus encore. Donc, ce péché-là se résume en ceci, vous adorez d'autres dieux. Voilà. Voilà le péché qui résume tout ce qu'on a cité là. Le vol, le mensonge, tout ça, le concubinage, ça c'est secondaire. Le plus important qui est là, c'est que finalement, vous finissez par adorer d'autres dieux. Parce que quand vous ne venez plus pour moi. C'est le temple qui était devenu important pour vous. C'est vos activités. C'est ta place dans l'église qui compte. C'est ta place. Vous savez, il y avait une église dans la région parisienne. Je crois une église d'environ 300 personnes. Mais il y avait 50 pasteurs, prophètes, machin. Trois groupes de louanges. Au fait, il fallait donner un poste à chaque membre de l'église pour qu'ils se sentent utiles et restent finalement. C'était la technique de ce pasteur-là. Donc, dès que tu arrivais à bien parler, allez, on te nommait pasteur, on te nommait ceci, trois groupes d'équipes de louanges. Il fallait que chacun ait quelque chose qui le rende important à ses yeux et aux yeux des autres. Et il y avait des rivalités entre ces équipes, mais les gens restaient dans cette rivalité-là. Donc la pollution y est entrée, et le jour où Dieu a dévoilé qu'est-ce qui se cachait, au-delà de tout ce que je vous cite là, les gens étaient dans, ils étaient chaos. Chaos, le pasteur de cette église-là, eh bien, il agissait avant les prédications avec les femmes, après les prédications, il était encore avec des femmes dans son bureau, mais tout ça n'était pas vu. Jusqu'au jour où Dieu a dévoilé, mais il y avait déjà le précédent, c'est que les gens venaient pour cette église-là. Donc c'était cette église-là qui était devenue leur Dieu. Donc pendant qu'ils ont transformé cette église en leur Dieu, le pasteur, lui, qui devait être certainement un serviteur du diable, mais lui, parfois, il passait la nuit au bureau avec deux sœurs de l'église, sous le même lit. Mais tout ça a été dévoilé après. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que petit à petit, on néglige Dieu, c'est les activités, c'est le temple, c'est ma place, c'est l'éloquence de celui qui parle. Non, on doit venir pour Dieu, on doit chercher Dieu. Ensemble, on vient, on s'unit pour recevoir de Dieu ce qu'il a prévu pour le groupe. Mais chacun déjà reçoit de Dieu ce qu'il a prévu pour lui, là où il est. Il est tout le temps avec Dieu. C'est Dieu qu'on doit chercher. Quand on vient ensemble, c'est pour le chercher en groupe. Parce que comme je l'ai dit, il y a des bénédictions d'un autre ordre. Mais c'est le même Dieu qui est là. C'est le temple ou Dieu que tu as choisi, bien-aimé. C'est l'activité. C'est ta famille que tu suis ou bien c'est Dieu que tu suis. C'est ta femme ou ton mari que tu suis ou bien c'est Dieu que tu suis. Je vous ai raconté l'histoire d'une dame qui a fait 40 ans avec son mari en Inde, hein, dans le ministère. C'est très difficile l'Inde. Elle a fait 40 ans à prêcher Jésus-Christ avec son mari. Et quand son mari est mort, elle est rentrée aux États-Unis, esclave des séries télévisées. Et ce sont les petits enfants qui disent « Mamie, c'est toi qui nous as amenés au Seigneur. C'est toi qui nous as parlé du Seigneur. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle ne répondait même pas. Elle continuait à regarder sa télévision. Vous savez pourquoi? Ben, on lui avait pris son Dieu. Donc quand elle faisait ces 40 ans-là, en réalité, c'était pour son mari. Ce n'était pas pour l'Éternel. Et nous, les gens ne voyaient pas. Mais le jour où on prend le mari, c'est là que tout le monde comprend. Finalement, cette dame, elle s'est sacrifiée autant. C'était pour son mari, pasteur. C'était pas pour l'Éternel. C'est ça la réalité. L'enlèvement qui vient, on va lire le texte sur l'enlèvement dans Matthieu 25. On va clôturer avec ça, mais on lit d'abord Apocalypse. L'enlèvement qui vient servira aussi à ça. Donc on commence par Apocalypse 3. 15 à 16, puisque le temps est passé. Apocalypse 3, 15 à 16.
Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Jusqu'au verset 22. Hein.
Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Bien-aimé, voilà, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous savez, il leur dit l'Esprit, moi je reprends au verset 19 et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Sois 100% pour Jésus. Sois 100% pour Jésus. Vis pour lui. Voilà ce que l'Esprit dit aux églises. Vivez pour lui à 100%. Bien-aimé, la vie de médiocrité en Christ n'est pas acceptée par Dieu. C'est le 100% qui est accepté. Et c'est pourquoi il réitère cet appel, l'appel du verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et là, il nous parle à nous tous. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Au fait, il veut rester avec toi et il veut rester avec moi tout le temps. Il dit, je frappe. Mais ce verset, est-ce qu'il est donné aux païens? C'est vrai que nous l'utilisons dans l'évangélisation, mais en réalité, il n'est pas donné aux païens. Il est donné aux chrétiens. C'est à une église, à l'église de Laodicée. Cette lettre, c'est à l'église de Laodicée. C'est aux gens qui viennent pour le temple et non pour Dieu. Lui, il dit, moi, je frappe dans ton cœur. Les gens qui viennent pour l'activité, pour apaiser sa conscience, pour se dire, ah, dimanche, j'ai été à l'église. Maintenant, toute la semaine, il a sa vie sans Dieu. C'est à ces gens-là que Dieu dit, je frappe. Quand est-ce que tu me laisseras régner dans ton cœur? Les gens qui viennent au temple parce qu'ils ont été baptisés. Ah, j'ai été baptisé, donc je dois commencer à y aller. Non, il faut établir un fonctionnement avec ton Dieu, ton Père, puisque tu es baptisé, il est devenu ton Père. Tu dois fonctionner avec lui tous les jours. Marcher avec lui. Et il dit, je frappe. Vous voyez, l'exemple qu'il propose là, c'est un exemple de vie commune. Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est la vie commune. On soupe, on s'assoit pour souper, on discute, on est ensemble. C'est le plus grand repas de la journée, le souper. À l'époque, c'était en tout cas le plus grand repas où les gens vraiment s'asseyaient, restaient en famille, discutaient et ainsi de suite. Je suis là, on discute. On échange. Voilà ce que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas l'activité qui compte aux yeux de Dieu. C'est le vivre à 100%. C'est ça qui compte. Bien-aimés, quand vous regardez dans toutes les Écritures, les drames sont liés à ça. Abel et Caïn, c'est dû à quoi? Abel et Caïn, c'est dû au fait que Abel était à 100% avec Dieu. Il lui a offert le sacrifice le plus important. Et Caïn s'est dit, bon, sacrifice pour sacrifice, bon, c'est pareil. Moi, j'offre le minimum. J'ai fait l'activité, n'est-ce pas? Le but, n'est-ce pas, de sacrifier? Est-ce que c'est pas de sacrifier? Ben oui, c'est sacrifier. Moi, j'ai sacrifié quelques petits légumes, là, c'est bon. J'ai sacrifié. Maintenant, quand il voit que le sacrifice d'Abel est agréé par Dieu, il est jaloux, il tue son frère. Tout vient d'où? Ça vient du 100%. Abel s'est dit que Dieu existe, donc il m'a donné la vie. Il m'a donné la santé, il m'a donné les biens que j'ai. Mais donc, finalement, tout vient de lui. Du coup, je lui rends le maximum. Je lui rends le maximum. C'est ça qui se dit. Tout vient de lui. Et donc, je lui donne la plus belle bête. Mais Caïn se dit quoi? Bon, Ce qu'il veut, c'est quoi? Qu'on lui sacrifie quelque chose. Ah ben, je lui sacrifie. Le minimum. J'ai fait l'activité. Vous voyez, les gens qui sont dans l'activité, ils n'iront jamais au maximum avec Dieu. Le jour où Dieu leur demandera leur vie, ils diront, ah, je chante déjà, je donne les offrandes, mais là, ils m'en demandent trop. Vends tous tes biens et suis-moi. Vous savez, quand Jésus a dit à ce monsieur-là, mais tu vas aller dans le royaume de Dieu, mais il faut appliquer la loi. Il dit, mais j'applique sans problème. Effectivement, côté activité, il était irréprochable. Il dit, même depuis ma jeunesse, irréprochable. J'applique tout. Jésus dit, ah bon? On va voir si vraiment tu aimes Dieu de tout ton cœur. Parce qu'il y a un des commandements, c'est ce commandement-là. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ben, Jésus lui dit, ben, dans ce cas-là, vends tous tes biens pour l'amour de ton Dieu et suis-moi. Il est écrit, cet homme s'est arrêté, il s'est retourné. Il s'en est allé. Vous voyez la différence entre l'activité et le 100% et la vie consacrée à Dieu. C'est que Dieu recherche une vie consacrée, une vie où il occupe la première place. C'est ça la différence. Abel était dans l'activité. Abel plutôt il était dans la vie à 100% et Caïn a fait juste l'activité. C'est ça le piège de beaucoup de personnes. Et tout cela sera révélé le jour de l'enlèvement. Mais bien aimé, il ne faut pas que ça soit révélé ce jour-là pour toi, que tu restes. Ce n'est pas bon de rester après l'enlèvement. Il faut tout faire pour partir. J'ai dit, il faut tout faire, c'est une façon de parler. En réalité, c'est Dieu qui va faire, mais nous, on doit faire le choix de vivre pour lui. Voilà. De l'aimer de tout notre cœur et de vivre pour lui. Et c'est lui qui s'occupe de nous pour le reste. Il frappe à la porte, bien-aimé, ouvre ta porte. Même si tu es pasteur, même si tu es ancien, je ne sais quoi, Dieu te parle. Ouvre ta porte pour qu'il occupe tout. Nous lisons pour clôturer Matthieu 25.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. »
Ah, bien aimé. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Seigneur nous appelle à avoir une relation à 100% avec lui tous les jours. Il faut faire ce choix-là de marcher avec lui, de souper avec lui, de vivre avec lui. Il faut faire ce choix. L'activité ne sauvera personne. Le temple ne sauvera personne. Le poste que tu occupes ne te sauvera pas. C'est là l'intimité avec Jésus qui compte. Voilà encore une différence. Il y avait 5 vierges folles, 5 vierges sages. Pourquoi on les appelle les vierges folles? Parce que elles ont sous-estimé la valeur des noces, la valeur du mariage à venir. Elles n'ont pris que de l'huile pour l'activité. Parce qu'il fallait de l'huile. Donc, quand le marié paraît, on allume et on l'accompagne. C'est une activité plus ou moins courte. Mais les gens qui tenaient tellement beaucoup à se marier là, les vierges sages, elles tenaient beaucoup parce qu'elles connaissaient l'importance de je ne sais pas qui était se marier là exactement, mais elles tenaient beaucoup à ça. Elles ont pris de l'huile en réserve au cas où, parce qu'elles tenaient beaucoup à cette affaire là. Bien aimé, si nous tenons beaucoup à Dieu, nous serons dans le 100%. Notre vie sera pour lui. Et ça se manifestera tous les jours. On lui accordera la première place et la plus grande place. On lui accordera tout notre temps. Parce qu'on tient beaucoup à ce Dieu-là qui a fait les cieux, la terre, qui nous aime, qui a donné son Fils pour nous. Il a donné son Fils unique pour nous. Quand tu as compris toutes ces choses-là, toi aussi tu lui donnes ta vie. Que Dieu nous fasse comprendre le sacrifice que lui-même a fait de donner son Fils pour nous. Quand tu comprends ça, tu ne discutes plus toi-même. L'amour, c'est ce que Paul explique dans 2 Corinthiens, il dit « L'amour de Christ nous presse. » 2 Corinthiens 5, 14. L'amour du Christ nous presse. Il est pressé. Donc, il ne sert pas Dieu par la contrainte. Il ne servait pas Dieu pour l'activité. Il servait Dieu pressé par l'amour de Dieu envers lui. L'amour de Dieu pour lui a été tellement grand que ça a créé aussi de l'amour pour Dieu en lui. Et du coup, il servait pleinement. Il ne s'est même pas marié tellement il a voulu servir Dieu. Avec passion, amour. Voilà ce que Dieu attend de nous. Les vierges sages. Le fait que même elles se sont assoupies, ça prouve que ce n'étaient pas des personnes extraordinaires. Mais elles tenaient beaucoup à ce mariage-là. Les gens que le Seigneur va enlever, ça ne sera pas des gens extraordinaires. Ça sera des gens qui tiennent à lui, qui tiennent à l'unité avec lui, qui tiennent à vivre avec lui. Et c'est lui qui les aide dans leur faiblesse. Bien-aimé, s'il n'y a pas encore l'amour pour Dieu en toi, prie que Dieu fasse naître cela. Relis les évangiles. Relis les paroles du Seigneur. Relis son sacrifice. Et déjà, pendant qu'on parle, que l'Esprit te touche, que tu réalises ce que Dieu a fait pour nous. Et que toi, en échange, tu donnes ta vie également. Même si tu es déjà apôtre confirmé, Dieu attend que tu donnes ta vie à 100%. C'est ça la vraie relation qu'il attend de nous. Ce n'est pas le temple, ce n'est pas l'activité, c'est d'abord lui. Vaut mieux échouer tout en étant à 100% avec Dieu que réussir sans lui. Et ce jour-là, les cinq vierges folles ne sont pas entrées. Pourtant, elles étaient vierges, mais elles ne sont pas entrées parce qu'elles étaient folles. Elles ne tenaient pas tant que ça à ce mariage-là. C'est ce qui se passera le jour de l'enlèvement. Vous savez, Jacob et Esaü, c'était la même chose. Hein? Vous savez bien tous que Jacob n'était pas parfait, hein? Mais il tenait à Dieu. Il tenait à l'ordre spirituel. Il tenait au spirituel. Mais Esaü, c'était l'homme animal. Nulle part on nous dit qu'Esaü, il mentait, il volait. C'est écrit nulle part. Le problème, c'est qu'il était attaché à la chair. C'est ça. Esaü, c'est l'archétype ou bien le de de l'homme animal. Même physiquement, il était comme un animal, il avait des poils comme un animal, même physiquement. Il avait une force personnelle. Une réussite humaine personnelle. Mais Jacob regardait au ciel. Il cherchait le contact avec le ciel. Il cherchait le ciel. Il cherchait le spirituel. C'est la différence. On ne dit pas que Jacob était beaucoup plus droit. Il ne mentait pas. Il ne volait pas. Non, tout simplement, ce qu'on dit de lui, c'est qu'il était attaché aux choses de Dieu, à l'ordre de Dieu. Alors qu'Ésaü, on ne dit pas qu'il était méchant, voleur. Non, mais il était détaché de Dieu. Ça ne l'intéressait pas. C'est pourquoi il en est arrivé à vendre le droit d'aînesse. Je l'ai dit au début de la prédication. Les péchés qu'on a cités ne sont que la conséquence du fait que les gens n'ont pas voulu de Dieu à 100% après. Ça entraîne une conséquence. Ésaü, quand il rejette le droit d'aînesse, c'est juste la conséquence du fait qu'il ne tient pas aux choses spirituelles. Il ne tient pas à Dieu vraiment. C'est tout. Mais après, ça l'amène à vendre le droit d'aînesse et ça se confirme qu'il y avait un problème. Les gens rateront l'enlèvement à cause du manque du 100%. Ils ne désirent pas Dieu. Au fait, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font quand ils vont dans les églises? Ils viennent solliciter Dieu pour que Dieu résolve leurs problèmes. Ils ne s'intéressent pas à Dieu lui-même. C'est ça le problème. Ce n'est pas la vraie relation avec Dieu. Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu nous sorte de cela. Que nos voies soient réformées. Nous vivons, bien-aimés, nous allons vivre, bien-aimés, bientôt. Nous allons vivre un temps de pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'histoire du Covid, vaccin, la pression dictatoriale des gouvernements, tout ça va baisser. La vie reviendra presque comme avant. Et les gens en profiteront pour à nouveau se marier, faire des fêtes, faire ceci et cela, et ils oublieront Dieu. Alors que ce qu'on vient de vivre est un tir de sommation pour nous signaler que nous sommes à la fin. Vous savez, le tir de sommation nous informe que c'est la fin, mais il ne nous dit pas quand est-ce que l'attaque de la fin va se faire. Mais il nous informe que c'est la fin. C'est pourquoi certains ne comprennent pas quand, de même, on dit on connaît ni le jour ni l'heure, mais on dit aussi que ça ne doit pas nous surprendre. Oui, mais ça ne doit pas nous surprendre puisque le tir de sommation est fait. Si le tir de sommation est fait, du coup, on sait que c'est la fin. Il y a un silence qui précède le tir fatal. Donc, on sait. Donc, on n'est pas surpris. Mais on ne sait pas exactement à quel moment le tir fatal va être donné. Il va y avoir une pause de quelques... Je ne veux pas donner des estimations. Il va y avoir une pause. Toutes ces affaires-là vont se calmer. Alors, ma prière, ma requête à nous tous, c'est de prendre nos réserves d'huile pendant cette pause-là. Maintenant plutôt. Maintenant que nous sommes dans le tir de sommation, faisons nos réserves d'huile. C'est-à-dire, engageons-nous à 100% avec Dieu. Parce que quand il y aura la pause, il y aura tellement le plaisir, la facilité, que beaucoup tomberont. Et il y aura le plaisir, la facilité, il y aura déjà aussi une constitution de la persécution des vrais chrétiens. Et beaucoup lâcheront. C'est maintenant qu'on est dans le tir de sommation qu'il faut emmagasiner de l'huile. C'est-à-dire s'engager à 100% pour faire face à la pause qui vient. Ce n'est pas ce moment qui est dangereux. Parce que ce moment plutôt nous a réveillés. Le moment dangereux, c'est la pause qui viendra avant la fin. C'est maintenant qu'il faut prendre de l'huile en réserve. C'est maintenant qu'il faut se donner à 100%. C'est maintenant que l'argent ne doit plus rien te dire. C'est maintenant que le succès ne doit plus rien te dire. C'est maintenant. N'attends pas les événements de la pause. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi.
Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi.
La
voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi.
Jusqu'au bout,
je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Jusqu'au bout,
je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Seigneur, nous voulons te suivre à 100%. Conduis-nous, Seigneur, dans toute la vérité. Nous voulons dès maintenant prendre beaucoup d'huile en réserve pour les temps à venir. Dès maintenant, nous engager à 100%, que tu sois l'amour de notre vie, le centre de notre vie, que nous soyons attachés à toi, plus qu'à tout, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur, de l'amour pour toi. Viens nous amener, Seigneur, à marcher, à souper, à vivre avec toi, à tout moment, Seigneur, en tout temps, Seigneur. Nous avons soif de ta présence, soif de ta parole serrée en nous. Seigneur, que nous ne puissions pas nous tromper, nous aller dans des espérances trompeuses, comme les gens de cette époque-là qui disaient, nous avons le temple, le plus beau temple, mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la marche avec toi, c'est le salut en toi à 100%. Oh Seigneur, nous voulons participer à l'enlèvement. Nous voulons vivre, Seigneur, cet enlèvement au cours duquel tu vas retirer ceux qui sont de toi, ceux qui s'attachent vraiment à toi, ceux qui vivent pour toi à 100%. Emmène-nous dans cela et que nous soyons prêts à payer le prix lié à l'attachement à toi, le prix de la honte, le prix de l'humilité, le prix des souffrances également. Mais en même temps, nous savons que nous avons fait le bon choix parce que tu es le Dieu vivant. Qu'est-ce qui serait négatif d'être avec toi? Au contraire, c'est nous qui sommes bénis d'être avec toi. Tu nous appelles à des réjouissances de tout instant, à la force de tout instant. Béni soit ton nom, Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre,
dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Jusqu'au bout,
jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Gloire à toi, Seigneur. Merci de susciter de nouveaux serviteurs, de nouvelles servantes pour ces temps de la fin qui vont, sous la puissance du Saint-Esprit, aller dire aux gens qui vont dans ce qu'on appelle des maisons de l'Éternel, leur dire, quand tu les conduiras, qu'ils doivent réformer leur voie. Seigneur, nous ne voulons pas brutaliser les gens, mais nous voulons nous tenir prêts au moment où tu vas nous parler, de parler à quiconque se prétend chrétien, mais qui vit selon les vierges folles, dire à ce genre de personnes de revenir à toi 100%. Conduis-nous dans la vérité, dans la simplicité par rapport à cela, Papa. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.